Veuillez trouver Lévitique chapitre 2 dans votre Bible. Nous continuons cette série sur les cinq sacrifices et les sept festivals de l'Ancien Testament, dans laquelle nous voyons Christ préfiguré et la vie chrétienne aussi enseignée. Nous allons lire donc ce chapitre 2 en entier. Si quelqu'un présente en oblation à l'Éternel une offrande, son oblation sera de fleurs de farine. Il versera de l'huile dessus et il y ajoutera de l'encens. Il l'apportera au sacrificateur, fils d'Aaron. Il prendra une pleine poignée de cette fleur de farine arrosée d'huile avec tout l'encens et le sacrificateur brûlera cela, c'est-à-dire cette partie de la farine et la totalité de l'encens, sur l'autel comme mémorial. C'est une offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils, c'est une portion très sainte des sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel. Si tu présentes en oblation une offrande de ce qui est cuit au four, qu'on se serve de fleurs de farine et que ce soit des gâteaux sans levain, pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Si ton oblation est une offrande cuite à la poêle, elle sera de fleurs de farine pétries à l'huile sans levain. Tu la romperas en morceaux et tu verseras de l'huile dessus, c'est une offrande. Si ton oblation est une offrande cuite sur le grill, elle sera faite de fleurs de farine pétries à l'huile. Tu apporteras l'offrande qui sera faite avec ces produits à l'Éternel. Elle sera présentée au sacrificateur qui la mettra près de l'autel. Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme mémorial et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une portion très sainte des sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel. Aucune des offrandes que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Vous pourrez en offrir à l'Éternel comme oblation des prémices, mais il n'en sera pas présenté sur l'autel comme offrande d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes en oblation. Tu ne laisseras pas ton offrande manquer de sel de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes les oblations, tu présenteras du sel. Si tu fais à l'Éternel une offrande de prémices, tu présenteras des épis rôtis au feu, du blé nouveau broyé comme offrande de tes prémices. Tu verseras de l'huile dessus et tu mettras de l'encens, c'est une offrande. Le sacrificateur brûlera comme mémorial une portion du grain broyé et de l'huile avec tout l'encens. C'est une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Il y a cinq sacrifices dans l'Ancien Testament, parce qu'il faut les cinq pour nous donner, et pour donner aux Juifs de l'Ancien Testament, une idée complète du seul sacrifice de Jésus-Christ, celui qui devait venir et qui est le vrai sacrifice. Les symboles vont dans deux directions. Ces sacrifices préfigurent Christ dans son œuvre, sa vie et sa mort. Et aussi, ces sacrifices sont symboliques pour la vie du croyant. Il faut que vous compreniez, avant que quelque chose ne puisse préfigurer l'avenir, il faut que ça symbolise quelque chose pour le présent. Et ce quelque chose dans le présent est lié à Christ. Seulement Christ est une réalité plus élevée de la même chose symbolisée. Par exemple, nous avons étudié la fois passée l'Holocauste. L'Holocauste est un sacrifice d'animal qui est brûlé tout entier. Et nous avons vu que pour l'adorateur, ça symbolise quelque chose dans le présent, dans son présent, c'est-à-dire son appel à se donner tout entièrement à Dieu. Mais cette réalité symbolisée dans la vie du croyant par un animal, qui ne l'est pas, il n'est pas un animal, mais l'animal symbolise sa vie humaine donnée à Dieu. Le problème, c'est que nous n'avons pas donné complètement notre vie à Dieu, n'est-ce pas, comme un holocauste. Et donc, il faut qu'il vienne un jour, un autre, plus élevé que nous, qui lui va se donner en holocauste dans sa vie et sa mort sur la croix. Vous voyez combien le symbole de l'application présente pour vous, se donner complètement, est lié à Christ qui est le vrai holocauste qui se donne complètement. Donc, quand je vais un peu alterner entre le symbole pour nous, notre vie chrétienne, et Christ le plus élevé qui le fait parfaitement, vous verrez que ce n'est pas arbitraire. Et qu'on ne peut pas comprendre comment une chose préfigure Christ, à moins de comprendre comment ça symbolise dans notre présent quelque chose. Nous allons donc suivre le plan que vous avez. Je vous ai dit, on suit plus ou moins l'enseignement de Monsieur Olliott sur ses messages, même si parfois, peut-être pas mal ici dans ce message, je vais m'écarter et dire certaines autres choses. Nous allons suivre son plan qui est tellement lucide et intéressant. Donc, nous allons parler d'abord de l'offrande et de son déroulement tout simplement. Et la première question, c'est que peut-on apporter comme offrande? Vous êtes juif dans l'Ancien Testament et vous allez offrir ce qu'on appelle l'offrande. Il y a l'Holocauste et maintenant, nous sommes dans l'offrande. D'abord, dans le verset 1, et puis 4 à 6 et 12, nous voyons que personne n'est exclu. Dans le verset 1, nous voyons que tu peux offrir de la fleur de farine avec de l'encens. L'encens est cher. Si tu es riche, donc, tu peux offrir cette fleur de farine, la meilleure des farines, avec de l'encens. Et c'est ton offrande. Si tu n'es pas riche, si tu es de la moyenne classe, nous voyons dans le verset 2 que tu peux offrir des gâteaux cuits de farine de fleurs, mais sans encens, cet élément si cher. Il apportera au sacrificateur, fils d'Aaron, il prendra, pardon, oui, je crois que c'est plutôt dans le verset 4. Si tu présentes en oblation une offrande de ce qui cuit au four, de fleurs de farine, et que ce soit des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, des galettes sans levain, arrosées d'huile, mais aucune mention d'encens. Et si tu es plutôt pauvre, tu peux offrir dans le verset 12 des épis rôtis ou des grains cuits et broyés qui sont encore moins chers que la fleur de farine. Dans le verset 12, vous pourrez en offrir à l'Éternel en oblige des prémices. Et il parle un peu plus loin dans le verset 14 d'épis rôtis au feu, du blé nouveau broyé. Donc personne n'est exclu. Tout le monde peut s'approcher de Dieu parce que Dieu désigne un sacrifice qui convient à tous. Mais il faut que nous parlions de cette offrande. C'est une offrande non sanglante. Et parmi les cinq sacrifices de l'Ancien Testament, c'est le seul sacrifice qu'on peut offrir à l'Éternel qui n'est pas un animal qui meurt. C'est de la farine. Ça vient des plantes et non pas d'un animal. Ici, c'est la seule fois où on ne s'approche pas de Dieu avec dans nos mains un substitut qui saigne et qui meurt à notre place. Il faut que je vous dise quand même que on n'offre jamais cette offrande de farine ou d'épis sans aussi offrir en accompagnement un sacrifice sanglant. Dans l'Ancien Testament, vous allez voir que quand on offre l'offrande, on offre aussi un holocauste ou un sacrifice de communion, un animal que nous allons. Ça, c'est le troisième sacrifice que nous verrons. D'accord? Parce que le juif doit savoir, doit pas penser que je peux m'approcher de Dieu sans un substitut qui meurt, qui souffre et meurt à ma place. Donc il y a quatre sacrifices sanglants dans l'Ancien Testament et une offrande végétale issue de plantes. Et l'Ancien Testament, souvent, nous sépare dans ces deux grandes classes les sacrifices. Je vais vous donner trois versets parce que c'est important que vous puissiez comprendre qu'il y a non pas une sorte de sacrifice, une grande sorte ou un grand type, mais deux. Premier verset, le psaume 40 et verset 7, qui est cité dans l'Ancien Testament en allusion à Jésus-Christ. D'accord? Jésus remplit cette prophétie. Alors, tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Voilà les deux sortes. Ni zébakh, ni minka. Sacrifice, zébakh. Offrande que nous étudions aujourd'hui, minka. D'accord? Tu ne désires ni sacrifice sanglante, ni offrande non sanglante. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Et en disant que c'est Jésus qui vient plutôt que sacrifice ou offrande, l'Ancien Testament et le Nouveau nous disent que c'est Jésus qui met fin au sacrifice sanglant. Et il met fin aux offrandes non sanglantes parce que les deux se réalisent en lui. D'accord? Deuxième passage, 1 Samuel 3, 14. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié ni par des sacrifices, ni par des offrandes. En hébreu, ni par zébakh, ni par minka. D'accord? Les deux sortes. Et le troisième passage, en Daniel 9, 27, une prophétie au sujet du Messie. Il fera, le Messie, une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande, le zébakh, le minka. Donc, c'est quoi au juste ce minka? Alors, le mot minka est employé dans l'Ancien Testament parfois comme mot technique pour parler de cette offrande de farine ou de rôti, de blé, mais parfois dans un sens non religieux pour parler d'un tribut, un présent qu'un serviteur présente à son seigneur. Je vous donne juste un exemple, 1 Roi chapitre 5, 1. Salomon dominait encore sur tous les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Il apportait des présents, des minkas, des offrandes, des tribus. Ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Donc le minka était une sorte de présent, d'offrande par lequel le serviteur disait: je suis loyal à toi, mon Seigneur, j'obéirai, je serai fidèle. Donc il faut que nous comprenions par tout cela ensemble, et c'est important ce que je vais vous dire, c'est que cette offrande ne représente pas la mort de Christ. OK? Nous avons quatre sacrifices sanglants qui font cela, mais cette offrande de farine représente la vie de Jésus-Christ, la vie juste par laquelle lui, il a rendu tribut au Père, il a été loyal, il a obéi au Père donc toute sa vie. Et ça nous montre une chose vraiment importante qui va nous aider pour le reste de ce message, c'est que vous et moi, nous sommes réconciliés à Dieu, ramenés à Dieu, non seulement par la mort de Jésus, mais aussi par sa vie vécue à notre place. Et nous allons essayer de comprendre tout cela. Vous avez remarqué dans le texte que cette offrande est une offrande consumée par le feu, je lis la fin du verset 2, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous savez qu'il y a trois sacrifices qui sont des sacrifices consumés par le feu, qui sont une agréable odeur à l'Éternel, y compris l'Holocauste, et puis le sacrifice de paix ou de communion que nous allons étudier la prochaine fois. Mais rappelez-vous que trois fois dans sa vie, le Père parle à Jésus d'une voix audible depuis le ciel et il dit: Tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai tout mon plaisir. Avant sa mort, à cause de sa vie juste, vécue comme il fallait pour le Père dit: Ah, ta vie est pour moi d'une odeur agréable. Voilà. Donc nous parlons de la vie de Jésus vécue et rendu à Dieu pour que nous soyons capables de lui approcher. Ok, nous allons poser la deuxième question. Qu'est-ce que Dieu exigeait? Juste un détail de plus. Rappelons-nous que dans les quatre sacrifices, on doit toujours presser sur la tête de l'animal avec ses mains, parce que c'est l'animal qui m'en substitue et mes péchés vont sur lui. Mais dans ce sacrifice aussi, cette farine, cette galette, me représente et m'en substitue. Et cela, nous allons voir. Ok, la deuxième question, c'est: qu'est-ce que Dieu exigeait de toi qui es l'adorateur si tu es juif dans l'Ancien Testament? Eh bien, la première chose, c'est qu'il y a deux choses que tu ne dois pas mettre dans ton offrande. Tu ne dois pas mettre le levain. Verset 4, verset 5, verset 11. Et par exemple, dans le verset 11, aucune des offrandes que vous présenterez, aucun minka que vous présenterez à l'Éternel ne sera faite avec du levain, car vous ne brûlerez rien qui contienne du levain ou du miel parmi les offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. Pourquoi cette interdiction de levain? Tout simplement parce que vous savez que le levain, c'est un agent de fermentation. D'accord? Ça fait fermenter et donc ça amène la putréfaction. Ça amène la décomposition d'une substance. Et donc ça représente le mal. Nous le savons très facilement parce que Paul nous l'explique très explicitement dans 1 Corinthiens chapitre 5 et les versets 6 à 8 par ces mots. Écoutez bien, il va nous dévoiler le sens de ce symbole. Il dit, il n'est pas beau votre sujet de gloire, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la sincérité, de la vérité. Vous voyez, le levain représente la méchanceté et la perfidie, alors que quelque chose sans levain représente la vérité et la sincérité. Et ça, c'est la vie de notre Seigneur tout au long de sa vie, rendue à Dieu pour nous, complètement dans l'intégrité, sans aucune perfidie ou iniquité. Le miel aussi est un agent de corruption. Si tu n'avais pas de levain dans l'Antiquité, tu pourrais utiliser le miel pour amener quelque chose à se fermenter. Et donc c'est la raison qu'il faut scrupuleusement ne mettre aucun de ces éléments parce que ça représente d'une part la sorte de vie que nous devons vivre pour Dieu et de manière plus élevée la sorte de vie que Christ a vécue parce que nous ne l'avons pas vécue. Ok, vous n'avez pas mis de levain ou du miel dans l'offrande, mais il y a trois choses que vous devez mettre. Et la première chose, c'est l'huile. Nous trouvons ça dans les versets 1, 4, 5, 6, 7, 15. On peut lire juste le verset 1. Si quelqu'un présente une oblation à l'Éternel, une offrande, son oblation sera de fleurs de farine, il versera de l'huile dessus. Et il y ajoutera de l'encens. Vous savez que l'huile dans l'Ancien Testament est toujours un symbole du Saint-Esprit. C'est déjà, même avant de parler de Christ, même dans la vie courante des Juifs, vous rappelez que quand le prophète est ordonné, quand on lui met l'onction de l'huile, quand le sacrificateur est mis en place, l'onction de l'huile. Quand le roi est installé, intronisé, l'onction de l'huile. Et cette huile parle de l'autorité, de la puissance qui lui est donnée de la part de Dieu pour vaquer à sa fonction. Donc, cette offrande doit être carrément imprégnée de l'huile. Ça dépend de sa forme. Parfois, il faut arroser. Si c'est une galette, on ne peut pas l'imprégner, mais on l'arrose de l'huile. Mais il faut qu'il y ait de l'huile. La Bible nous dit ceci au sujet du Seigneur Jésus. Vous savez comment, c'est Pierre qui prêche, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire des diables, car Dieu, par cette onction, était avec lui. L'homme qui vit la vie juste pour Dieu, par la puissance que Dieu donne. C'est l'image que nous avons ici. En Hébreux 1,9, en parlant du Christ, tu as aimé la justice, c'est une citation de Psaume. Tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes compagnons. Donc, nous voyons par cela que Jésus ne rend pas à Dieu une vie simplement humaine et charnelle, mais une vie céleste, imprégnée, animé constamment par la puissance de l'Esprit de Dieu lui-même. Deuxièmement, il faut que tu mettes du sel. Cette exigence est vraiment très appuyée. Si vous voulez, dans le verset 13, on le dit trois fois. On va lire ce verset. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes en oblation. Et tu ne laisseras pas ton offrande manquer du sel de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes les oblations, tu présenteras du sel. Le sel, c'est le contraire du levain ou du miel, dans le sens que c'est un conservateur. On utilisait dans l'Antiquité le sel pour conserver. Et ça lui donne un sens de pureté. Mais nous pouvons aller plus loin parce que nous avons lu que le sel est lié à l'alliance, le sel de l'alliance de ton Dieu. Nous savons que dans l'Antiquité, les Grecs et les Arabes mangeaient du sel quand ils faisaient une alliance avec quelqu'un. Et aussi dans la Bible, deux fois, Le sel est mentionné en rapport avec des alliances, et chaque fois, le sel est symbole d'une alliance perpétuelle, parce que le sel conserve et rend éternel. Vous savez que dans l'Antiquité, on ne pouvait pas détruire le sel, ni par le feu, ni par le temps, en laissant le sel. C'est une chose qui est pure et qui est durable. Et le sel dans ton offrande va montrer que toi, d'abord, ta vie doit être durablement loyale à l'alliance de Dieu. Dieu s'est donné à toi de manière complètement fidèle dans sa grâce. Et il faut que tu te rendes à Dieu de manière complètement fidèle et loyale et perpétuelle et durable. Et nous savons que, comme nous ne l'avons pas fait, nous sommes sauvés par celui qui a donné un tribut constant, se lassant jamais, du début à la fin de sa vie, complètement loyal jusqu'au bout, jusqu'à la mort de la croix. Donc, dans ces deux choses, nous voyons la puissance de Christ dans sa vie juste et la fidélité absolue de Christ dans sa vie juste. Mais il y a une troisième chose que vous devez mettre, c'est l'encens. Ça, nous le voyons dans le verset 2. Pardon, verset 1. Il versera de l'huile dessus et il ajoutera de l'encens. Si la farine n'est pas cuite, il doit y mettre de l'encens. On ne peut pas dans une chose cuite parce que, en fait, il va enlever l'encens. Ça ne va pas être mélangé avec toute la farine de fleu, mais il va offrir tout l'encens avec une partie de la farine à Dieu. Et le reste de la farine qui est mangé par les sacrificateurs n'a pas de l'encens là-dedans. Ok? Je vais pas essayer de vous expliquer ça ce matin, mais tout simplement, l'encens est symbole de quoi dans la Bible? Oui, c'est toujours un symbole d'une prière agréable à Dieu, d'une confiance qui plaît à Dieu, d'une vie de prière qui est vraiment l'expression de ce lien de dépendance et de confiance qui dit à Dieu, tu es complètement fidèle et je vis en dépendance de toi. Ça, c'est le premier élément de la piété, ça, n'est-ce pas? Et l'encens montre cela. Le psaume 141, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque, que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Ou bien Apocalypse 5, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies d'encens qui sont les prières des saints. Donc, par ces trois éléments, le sel, l'huile, l'encens, nous voyons la vie de Christ vraiment parfaitement, cette vie dans la puissance de Dieu vécue d'une manière complètement pure et durablement pure et loyale et dans un esprit de dépendance et de confiance et de prière constante envers le Père. En d'autres termes, voilà une vie rendue à Dieu qui plaît à Dieu, la vie qu'on aurait dû vivre envers Dieu. Alors, maintenant, arrêtons-nous juste un moment pour essayer de comprendre tout cela. Nous sommes les Juifs dans l'Ancien Testament, nous voulons nous approcher de Dieu, et comment est-ce que nous allons le faire? Nous avons besoin d'un substitut dont la vie sera versée, perdu, livré à notre place, mais ça ne suffit pas. On ne peut pas s'approcher de Dieu simplement comme cela. Nous avons besoin aussi de cette offrande qui représente une vie vécue pour Dieu. Pourquoi? Parce que notre problème, ce n'est pas simplement le problème de payer la peine de nos torts. Vous savez, s'approcher de Dieu, ce n'est pas une simple histoire de régler des torts. Ou être réconcilié avec Dieu, ce n'est pas une simple histoire de pardon. Loin de là. Le pardon ne suffit pas. Au grand jamais. Payer pour mes torts par le sang versé. C'est pas, ça suffit simplement pas. Parce que même si mes torts sont réglés, qu'est-ce qu'on va faire de tout le bien que j'aurais dû donner à Dieu et que je n'ai pas donné? Mettons les choses de côté, les choses mauvaises que j'ai faites. Il y a aussi les bonnes choses, la bonne vie que j'aurais dû vivre pour lui et que je n'ai pas vécue. Il faut que cette vie soit vécue à ma place. Je me souviens d'un jeune dans le groupe de jeunes où j'étais pasteur dans une église. Je m'occupais des jeunes, des ados. Et il y avait un jeune qui aimait beaucoup la basket. Il jouait en compétition. C'était un adolescent, en tout cas, un jour, il m'a dit, après un match qu'il avait joué avec fierté, je n'ai fait aucune faute dans le match. Parce que c'était son attitude. Il allait dans le match en espérant qu'il n'allait pas faire une mauvaise passe ou qu'il n'allait pas faire une faute quelque part. Et là, à la fin de ce match, il était content parce qu'il n'avait rien fait de mauvais. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pratiquement rien fait de bien dans le match. Il jouait pour éviter les fautes. Mais jouer un match de basket, ce n'est pas simplement une affaire de ne pas faire de fautes. Il faut marquer des paniers, n'est-ce pas? Et ça, c'est un peu notre cas, n'est-ce pas? Imaginez que vous avez perdu tout votre argent mis de côté cette année dans la loterie ou au casino. Et comme le gouvernement a triplé les impôts, vous en devez beaucoup. Et supposons qu'un substitut vient parce que par finir, vous ne payez pas vos impôts. Vous ne déclarez même pas cette année. Et vous recevez cette lettre redoutable du service des impôts en vous disant que vous devez une amende pour ne pas avoir payé les impôts. Et heureusement, il y a un substitut qui se met à votre place pour cette peine et qui paie l'amende. Est-ce que ça suffit? Tout est bon maintenant? Ben, si votre substitut paie l'amende, mais ne paie pas les impôts que vous devez encore payer, que vous n'avez pas payé, vous n'êtes pas en règle. N'est-ce pas? Et Christ a payé notre amende en mourant à la croix. Mais qu'est-ce qui va devenir toute le bien, les impôts, le tribut que nous devons à Dieu, une vie juste et aimante et confiante et dépendante et pure et loyale que nous n'avons pas vécu? Et c'est ça la raison pour cette offrande que nous étudions aujourd'hui. Donc il y a cette double échange que Christ prend nos péchés, en paie la peine, et que nous recevons tout le bien, le mérite de sa vie juste rendue à Dieu à notre place. Je crois que parfois dans la vie chrétienne, c'est là notre problème. Nous vivons comme si être chrétien, c'est être quelqu'un qui a fait des mauvaises choses, mais qui en est pardonné. Et nous en restons à ce stade. Mais c'est pas notre identité. Nous ne sommes pas des gens qui ont fait des mauvaises choses et qui sont pardonnés, Dieu nous traite et nous regarde comme des gens qui ont vécu une vie complètement juste devant Dieu. À cause de Christ. C'est-à-dire la mesure de faveur et d'amour et de bénédiction que vous avez de la part de Dieu, ce n'est pas la mesure de quelqu'un qui n'a rien fait comme il fallait, qui a fait des mauvaises choses, mais on lui a pardonné au moins les mauvaises choses. Ça vous met dans le neutre, dans le zéro. Vous n'avez aucun bon point. Vous n'êtes pas dans une telle position. Dieu vous traite comme si vous aviez vécu une vie complètement juste. Il vous aime, il vous destine vers la vie éternelle de félicité complète. Et en chemin, il est en train de vous réparer et vous transformer. Non pas qu'il ne sache pas que vous n'avez pas vécu cette vie. Il vous met au bénéfice de la vie parfaite de Jésus-Christ et de sa mort. Non pas, attention, pour que vous n'ayez pas à vivre une vie juste. Ce serait vraiment incroyable, n'est-ce pas? Dieu, le Christ, vit pour moi une vie juste pour que je puisse continuer à vivre une vie injuste. Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Le meurtre est pire que la prison du meurtrier. Et j'ai besoin, et vous avez besoin, d'être délivré non seulement de l'enfer, de la prison, mais aussi de quelque chose de pire, le meurtre, le péché lui-même. Quand Dieu nous sauve, il ne sauve pas des conséquences simplement, mais il nous sauve de quelque chose de bien pire, le mal lui-même, le fait de ne pas vivre pour Dieu. Et cette vie de Christ vous met dans la faveur de Dieu, mais aussi va devenir la source d'une vie différente chez vous. Vous allez commencer à vivre, vous, en tribut à Dieu de plus en plus, à cause de sa vie juste. Ok, je crois que je vais plus ou moins arrêter là. Je vais juste résumer les derniers points pour que vous compreniez le déroulement, mais nous avons vu l'essentiel. Quand vous amenez cette offrande, vous n'avez pratiquement rien à faire. Vous donnez juste la farine avec ces trois éléments au sacrificateur. Il n'y a aucune grande cérémonie en pompe, et il n'y a aucun espoir que vous paraissiez grand quand vous donnez cette offrande. Vous donnez un peu de farine comme ça et c'est tout. Le Christ, en toute humilité, il vit complètement pour Dieu et personne ne pense autour de lui. On le dédaigne. Et nous aussi, une vie, comme Joël a dit tout à l'heure, nous ne sommes pas en train de donner quelque chose de grand à Dieu. En fait, c'est rôti, ces grains, cette farine, c'est Dieu qui a donné la terre où nous avons pas planté ces grains. C'est lui qui a fait pleuvoir pour que ça pousse, n'est-ce pas? Et nous ne faisons que lui rendre ce qu'il nous a donné lui-même. Donc il n'y a aucun lieu de se glorifier. Qu'est-ce que Dieu exigeait du sacrificateur? Ben, il enlevait une poignée de cette farine avec tout l'encens. Et il brûlait ça sur l'autel où les animaux mouraient, pour montrer que tout cela fait partie d'un ensemble. Et aussi que la vie obéissante de Christ, où est-ce que ça se termine? Sur la croix. Brûlé. En holocauste. N'est-ce pas? La répartition des portions. Tout simplement, une partie monte à Dieu dans la flamme et le feu pour montrer que la vie juste de Christ est rendue au Père pour son plaisir, sa satisfaction que nous avons manqué de lui donner. C'est pour Dieu d'abord, la vie de Christ et la mort de Christ. C'est pas pour l'homme, pour sauver l'homme, mais d'abord pour satisfaire au Père. Donc c'est un mémorial. Cette partie qui est rendue à Dieu, selon le verset 2 où on nous dit que c'est un mémorial, ça veut dire que c'est une sorte de signe ou juste une petite partie qui représente le reste. Comme la dîme, on donne une dixième, une partie pour dire à Dieu que tout ce que j'ai est à toi et je te donne une partie pour témoigner que tout est à toi. Et ici, dans cette offrande, c'est un peu la même chose. Tout ce que nous avons vient de toi et doit te revenir, ma vie entière. Et je te donne une partie pour le montrer. Le reste, c'est les sacrificateurs qui le mangent. Mais ils doivent le manger à l'intérieur du sanctuaire. Parce que c'est une chose très sainte qui doit pas être profanée en allant en dehors du temple. Et les sacrificateurs ne peuvent pas en donner à leurs femmes ou leurs enfants. Seuls les sacrificateurs mangent cette offrande qui est très très sainte. Et quand ils mangent, quand tu es l'adorateur, et toi tu as apporté la farine, et tu vois une partie qui monte dans les flammes à Dieu, et tu vois le représentant de Dieu qui mange l'autre partie, tu sais que ton offrande a été acceptée. Le fait qu'il mange valide cette offrande, valide son acceptation. Je dirais qu'il y a une petite application pour nous en tant que chrétiens, c'est que lorsqu'on vit pour Dieu, c'est un plaisir pour Dieu, mais ça fait du bien aux hommes aussi. Les hommes en mangent. Et aussi, dans l'Église, lorsque on donne à Dieu, on est en train de soutenir les ministres de Dieu. Et ça, c'est une autre question. Alors, tu rentres les mains vides, et il n'y a aucune part pour toi dans cette farine ou ces rôtis de grains. Parce que tu n'es pas venu pour recevoir quelque chose de Dieu. Tu es venu pour qu'il reçoive quelque chose de ce qu'il t'a déjà donné, il t'a déjà comblé. Ton adoration est pour lui. Et nous voyons que dans l'évangile de Jean, et je finis par là, Jésus dit, ma nourriture, mon pain, rôti, mon pain est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Et c'est une grande leçon pour nous, c'est que cette vie qui doit être un tribut est vraiment un tribut pour Dieu. Le Christ l'a fait parfaitement. Et nous aussi, nous avons envie de plus en plus, par son œuvre en nous, de rendre quelque chose au Père qui nous a tellement aimés et nous a sauvés.